L'Iran fait l'objet d'une attention toute particulière au sein de la communauté internationale. Le régime islamique en place depuis 1979 menace de se doter de l'arme nucléaire et ne cesse de vouer aux gémonies l'État hébreu Israël. Ce pays n'a pas toujours été aussi autoritaire et réactionnaire. Souvent, à propos de l'histoire iranienne, c'est la révolution islamique qui vient automatiquement à l'esprit de chacun. Pourtant, il y eut une autre révolution tout aussi importante et moins despotique que celle qui mit au pouvoir l'ayatollah Khomeini. En effet, c'est en 1905 que la révolution constitutionnelle de l'Iran, aussi appelée révolution constitutionnelle perse, s'oppose au règne despotique du dernier Shah Qajar. Cette révolution constitutionnelle guida la politique iranienne jusqu'en 1911. Elle eut pour conséquence la fondation d'un parlement en Iran. La révolution constitutionnelle d'Iran était le premier événement dans son genre au Moyen-Orient. Elle ouvrit la voie à des changements cataclysmiques en Perse, ouvrant ainsi l'ère moderne. Elle vit une période de débats sans précédent dans une presse bourgeonnante. La révolution créa de nouvelles opportunités et offrait un futur pour l'Iran qui apparaissait sans frontières. De nombreux groupes différents se bâtirent au cours de cette révolution et toute la société fut finalement changée d'une manière ou d'une autre par cet événement. Pour le centenaire de cette révolution, l'association Sabalan, à Toulouse, association franco-iranienne, tente de faire revivre le souvenir de cette constitution. Je vous propose de survoler l'histoire de l'Iran en compagnie de Sader Keyani, président de l'association Sabalan, et Lucien Mandeville, secrétaire de l'association. L'occasion pour nous de découvrir les entrelacs d'une histoire qui balance entre obscurantisme et modernité et qui nous donne les clés essentielles pour comprendre l'actualité internationale du moment. L'histoire commence avec un personnage prépondérant pour les Iraniens, Cyrus le Grand.
Cyrus le Grand, comme vous avez dit, c'est le fondateur de l'Empire. Premier empire perse, et il est très connu parce que, si vous voulez, pour les Iraniens, c'est le représentant de tolérance, c'est le représentant d'État mondial à l'époque, qui a fait beaucoup de choses pour l'Iran et pour les voisins. Autrement dit, quand il a envahi des autres pays autour de l'Iran. Et pour chaque région, il nommait quelqu'un de sa propre de sa région pour gouverner. Il respectait la culture, la langue et les croyances des gens de ces régions.
Il y avait le respect des peuples conquis, c'est ça. Et il existe une charte, justement, qui, entre guillemets, légifère sur ces questions-là.
Tout à fait, parce que lui, par exemple, pour les Juifs de Babylone, c'est un prophète qui les a libérés, qui les a donné des moyens pour reconstruire leur temple à Palestine. Il faut dire que même avant Cyrus, il y avait des communautés juives en Iran. L'Iran, c'est le premier foyer du judaïsme, après bien évidemment la Palestine, dans le monde. Et ce respect, ça existait déjà dans la société iranienne. Cyrus, il n'a pas inventé tout seul. Et comme on a parlé, d'ailleurs, même le mot « satrape » qu'on connaît en français, et c'est un mot persan qui me désignait la responsable politique de chaque région qui était choisie parmi les gens de cette région.
Cyrus, c'est le seul personnage que l'on trouve dans la Bible, avec un statut absolument exceptionnel, puisque donc la Bible dit qu'il est loin du Seigneur. Autrement dit, vous voyez quel est son statut pour les Juifs de l'époque. Et d'ailleurs, à mon avis, pour les Juifs d'aujourd'hui, car je crois qu'il y a ce que Sader a bien marqué, un lien incontestable entre l'Iran, évidemment, mettons Ayatollah mis à part, et la judaïté.
Il y a une religion qui est importante aussi à l'époque, c'est le zoroastrisme. Vous pouvez m'en dire deux mots? Est-ce que le zoroastrisme aussi a guidé la politique d'un Cyrus et pourquoi pas aussi la politique iranienne ultérieurement?
Et à l'époque de Cyrus, il n'y avait pas de religion d'État. Donc, bien évidemment, toutes ces religions de l'époque s'étaient représentées en Iran. Il y avait des croyants de toutes ces communautés, mais il n'y avait pas religion d'État. C'était par la suite, sous le deuxième empire perse, d'ailleurs, c'était par la suite que les Romains, ils ont accepté le christianisme comme la religion de l'empire, que les Iraniens aussi, ils ont accepté une religion qui était la religion de zoroastrisme, comme vous avez dit, comme leur religion d'État qui était un ciment de la société, ce qui était un des défauts de deuxième empire perse.
C'est en écoutant Sader que j'ai senti la nécessité de vous dire que on dit toujours que la situation d'un pays aujourd'hui est commandée par son histoire. Il ne faut pas oublier la géographie. Le problème de l'Iran, c'est que c'est à la fois un lieu merveilleux de passage, ce dont il a tiré évidemment beaucoup de bénéfices, mais c'est aussi un pays ouvert à tout, y compris les invasions. J'ai un collègue qui s'appelle Tabatabai, qui est professeur maintenant d'ailleurs à Paris. Je crois qu'il est à l'heure actuelle aux États-Unis. Tabatabai, il a beaucoup insisté sur l'impact des Mongols sur l'histoire de l'Iran. C'est une façon de signaler que les Iraniens sont extrêmement vulnérables à toutes ces tribus dont vous a parlé Sader, et que pendant très longtemps, ces tribus, si vous voulez, ont en quelque sorte imposé leur rythme à l'histoire de l'Iran, jusqu'à ce qu'arrive une grande dynastie. Je vais très vite. Hein. Cette dynastie, qui est une dynastie extraordinaire, qui s'appelle les Safavides, qui commence à partir, en gros, si vous voulez, la fin du XVe siècle, et qui va durer, en gros, jusqu'au XVIIIe siècle. Il s'agit d'une civilisation extrêmement raffinée. Il s'agit même d'un âge d'or, qu'on pourrait comparer, si vous voulez, aux âges d'or de Rome ou de l'Europe. Et puis, cette civilisation, ou d'ailleurs un certain nombre de Français, je veux saluer ici par exemple le chevalier Chardin, envoyé par Louis XIV, semble-t-il, comme agent d'influence auprès de l'Iran, cette civilisation s'effondre sous le coup de boutoir des Afghans. Les Afghans arrivent jusqu'à Isfahan, qui est alors la capitale de l'Iran, qu'ils saccagent, et puis ils font régner une espèce d'anarchie complète sur l'Iran pendant presque un siècle. Et à la fin du XVIIIe siècle seulement, avec un personnage qui va créer la nouvelle dynastie, dont nous allons maintenant rentrer, comme vous la voyez, dans le prodrome de la révolution constitutionnelle, qui s'appelle les Qajars. Dynastie d'ailleurs qui elle-même est issue d'une tribu qui vient, n'est-ce pas, Sader, du nord-est de l'Iran. Donc, ces Qajars vont créer cette dynastie, et c'est cette dynastie qui va se trouver, elle, malheureusement pour elle et pour l'Iran, confrontée avec la poussée en avant du monde russe, et nous rentrons en plein dans la problématique de l'indépendance, de l'agression, de la modernisation, et bref, nous allons arriver à la révolution constitutionnelle.
Je voulais... notre ami Lucien, il a parlé des cataclysmes mongols. Je voulais vous parler d'un autre cataclysme qui était avant Mongol, qui était cataclysme des Arabes qui sont rentrés en Iran. D'ailleurs, l'Iran, c'était le pays des villes. Et toute l'histoire de l'Iran est marquée par cette opposition des villes et des tribus qui étaient autour de l'Iran, notamment les tribus de l'Asie centrale et les Bédavis de l'Arabie saoudite, parce qu'il y avait des autres Arabes qui étaient très civilisés en Irak, d'aujourd'hui, ou en Syrie, et partout. Mais une fois que l'Empire perse est tombé sous les forces des tribus arabes de l'Arabie saoudite, tout était possible. Le chemin était libre pour les tribus de l'Asie centrale pour entrer d'abord en Iran, après aller en Asie mineure et continuer jusqu'à l'Europe. Tandis que avant l'islam, l'Empire perse, malgré tous ses défauts, c'était un barrage pour cette invasion. On était privé quand même de parler notre propre langue pendant 4 siècles. Et ça, si vous voulez, venons maintenant à la révolution constitutionnelle. Pour les intellectuels de première génération, des intellectuels de la révolution constitutionnelle, passer de l'Iran avant l'islam, il y avait une place très importante. Pourquoi ? Parce qu'il se référait à la tolérance. Et deuxièmement, dans l'histoire et dans la culture iranienne, la raison, il y avait une place très privilégiée. C'était toujours cette notion de raison qui est très importante. Et comme les intellectuels de l'époque de Lumière qui se référaient à l'époque de Grecs et tout ça, les premières générations des intellectuels iraniens qui connaissaient bien l'histoire de l'Iran, qui connaissaient bien l'histoire de l'Europe aussi, ils étaient d'un part vers les pensées des Lumières et d'autre part sur le passé des Iraniens. Et ils voulaient se mélanger. Avant que cette idée de réforme prend forme en Iran, il y avait un autre mouvement religieux cette fois-ci, au début du 19e siècle, qui voulait réformer la religion et la société. C'était le babisme. On peut le résumer, qui voulait finalement l'égalité homme-femme, qu'il était contre toutes sortes de l'intégrisme, il était pour tolérance et cohabitation des différentes religions. Et d'ailleurs, il réclamait une association, une sorte de structure internationale parmi toutes les nations différentes, tout ça. Ce qui était à l'époque, pour un pays arriéré comme l'Iran, c'était très avancé pour l'époque, qui était durement réprimé par les mollahs parce que, et dans 10 ans, il a pris une dimension énorme. Et c'était par la suite que les intellectuels iraniens, ils cherchaient, ils regardaient l'histoire de l'Europe comme un miroir. Pour eux, et l'Europe, c'était à la fois leur malheur et la solution des remèdes pour ces malheurs.
Pourquoi cette révolution à ce moment-là ? Que vient changer cette révolution constitutionnelle ?
Les historiens, ils préfèrent de parler de mouvement constitutionnel au lieu de la révolution constitutionnelle. Il faut se rappeler qu'avant le mouvement constitutionnel en Iran, l'histoire semblait se répéter. Malgré les grandes dynasties qui existaient en Iran, que chacun a donné son empreinte de l'histoire, surtout sous les Safavides au XVIe siècle, que le schisme s'est devenu la religion d'État, mais la société ne bougeait pas. C'était au XIXe que la société ça a commencé à s'ouvrir un petit peu, parce qu'il y avait des relations avec les Européens, surtout au niveau de commerce et surtout après des guerres contre la Russie et l'Angleterre. Et si vous voulez, donc, le commerce avec l'extérieur, au départ, ça engendrait un développement des villages parce qu'on faisait des produits pour exporter. Alors, les commerçants, les villageois, dans les grandes villes, il y avait un développement économique énorme qui a un peu déjà fissuré les tissus sociaux de société archaïque de l'Iran. Et par la suite, comme il y avait une crise de prix, que ça a chuté énormément, les commerçants, et c'était le premier victime. Et par la suite, c'était les paysans et les gens de ville. Et pourquoi ? Parce que les commerçants étrangers, ils avaient presque le monopole de tout. Ils étaient protégés. Les douanes, tout ce qui était de communication, tout ce qui était même des produits essentiels, c'était à la main des commerçants étrangers. Ça, c'était la première fois que les commerçants mécontents, les populations mécontentes, et d'ailleurs, même certains mollahs de l'époque, ils étaient contre parce qu'ils voyaient dans les commerces, dans les présences de l'étranger, un ennemi chrétien qui est venu là-bas pour changer la société. Ils savaient que par la suite, il y a un changement de mœurs dans la société. Donc, eux aussi, de leur point de vue qui était complètement différent, ils étaient contre. Donc, si vous voulez, il y avait une mélange explosif dans la société à cause de ça. En plus, il faut rajouter que l'Iran a subi deux défaites militaires contre la Russie. La première, c'était dans le début du 19e siècle. Donc, il a perdu toutes les provinces de nord de l'Iran. Même le chef militaire iranien qui était un prince, il a compris qu'il faut moderniser l'armée de l'Iran. Donc il a commencé de demander des experts étrangers, ils ont construit des usines d'armement, de tout ça. Et les mollahs et les chefs de tribus et les féodaux, ils étaient contre. Pourquoi ? Parce que ils voyaient dans un gouvernement central une perte de leur pouvoir. Et en plus de ça, ce prince, il a envoyé les autres, dans les autres branches scientifiques, il a envoyé les étudiants en Europe. Ce qui lui a donné l'occasion, par la suite, à un grand ministre iranien qui était Amir Kabir, qui était un réformateur, de reconstruire et de construire une école polytechnique et plusieurs écoles par la suite dans les grandes villes de l'Iran, ça a construit, qui donnait une possibilité aux intellectuels iraniens pour connaître le monde extérieur.
À la fin du XVIIIe siècle, il y a encore en Iran, l'Iran est encore intellectuellement très vivant, même dans les milieux religieux. Ça, je crois que c'est une première chose. Sinon, on ne peut pas comprendre le reste. Ce qui explique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, que comme soutien de la révolution constitutionnelle, nous allons avoir des ayatollahs. Sinon, on ne comprendrait pas, si vous voulez. Bon. Deuxièmement, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce désir que vous sentez chez tout Iranien, je l'entendais une fois de plus vibrer dans les propos de Sader, d'indépendance. D'indépendance et de fierté. Or, ils se trouvent affrontés à la puissance russe, ils subissent des échecs considérables. Il y a un traité, le traité de Torquemanchai, qui est extrêmement humiliant pour les Iraniens. Pour vous donner une idée, la Géorgie, elle était sous empire iranien à l'époque. Tous ces territoires leur sont enlevés, etc. Donc leur idée, c'est comment faire pour empêcher que continue cette espèce d'expropriation de l'Iran par la Russie triomphante, ou plus perversement, si j'ose dire, par les Britanniques qui arrivent de l'autre côté. Je crois qu'il y a également dans la révolution constitutionnelle un aspect nationaliste, il ne faut pas s'y tromper. Et puis, alors là je rejoins tout à fait Sader, mais c'est en liaison avec ce que je disais sur la brillance des intellectuels, qu'ils soient religieux ou civils iraniens, il y a incontestablement, alors qui sont favorisés par l'envoi systématique en Europe d'intellectuels qui sont envoyés pour des besoins au départ de spécialisation. Par exemple, vous savez qu'il va y avoir énormément de militaires à Saint-Cyr à l'époque. Parce qu'on veut, évidemment, ça se comprend, on veut avoir des militaires capables de faire face aux Russes. Il va y avoir aussi un institut qui va être créé, qui est fétiche en Iran, Dar el-Fonoun, qui va être créé et qui va être aussi, si vous voulez, en quelque sorte, la base de tous ces intellectuels iraniens. J'ajoute enfin, et c'est pas la moindre chose, sous l'influence de Napoléon III, peut-être ça va vous surprendre, mais Napoléon III est un personnage surprenant, vous le savez, et la présence aussi d'une sorte d'antenne de la franc-maçonnerie en Iran.
Fin de cette première partie de nos émissions consacrées à l'histoire de l'Iran. Merci beaucoup à Sader Kayani, président de l'association Sabalan, ainsi qu'à Lucien Mondeville, secrétaire de l'association Sabalan. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette série d'émissions.